Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. La Pologne, les Juifs et le communisme, c'est le titre un peu provocateur du livre que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. Cet ouvrage est un recueil d'articles qui retrace l'histoire des relations entre les Juifs et les Polonais et celle de l'antisémitisme en Pologne qui a pris de nombreuses formes. Puisqu'on le sait aujourd'hui, l'idéologie communiste, son socle antifasciste et l'universalisme assimilationniste du régime ont organisé l'oubli de la spécificité juive de l'extermination. Mais c'est aussi un regard sociologique sur le présent et sur la façon dont aujourd'hui se construit de mieux en mieux l'historiographie de la présence juive en Pologne, sa politique mémorielle et la renaissance d'une certaine présence et vie culturelle juive polonaise. La Pologne reste le pays témoin de l'Holocauste, auquel il a participé plus qu'activement à travers certains pogroms des années de guerre, et même de terribles pogroms d'après-guerre comme celui de Kielce en 1946, mais aussi le pays où 6000 justes ont secouru des familles juives. Avec nous pour en parler, l'auteur de ces articles parus aux éditions Michel Oudiard, Jean-Charles Churek, sociologue et directeur de recherche au CNRS. Pour commencer, Jean-Charles Churek, je voudrais m'arrêter justement sur le titre de votre livre. En France, la Pologne et les Juifs sont des mots qu'on a l'habitude d'associer, puisque la Pologne a ici la réputation d'être un pays intrinsèquement antisémite, notamment depuis le film de Claude Lanzmann, Shoah. Et vous avez ajouté le terme communiste au regard de la gestion de la mémoire du génocide par l'État communiste polonais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre ?
Oui, bien sûr, puisque je l'ai trouvé. Je dois dire d'abord que, juste pour abonder dans votre sens, c'est que l'antisémitisme des Polonais plus que l'antisémitisme polonais, c'est un phénomène qui date pas seulement de Shoah, du film de Lanzmann, ça date bien d'avant. Dans la perception des Juifs émigrés, soit aux États-Unis, soit en Israël, soit en France, soit ailleurs, ça date de l'avant-guerre d'une certaine façon. Et ça prend plus d'importance pour les générations de l'avant-guerre que de l'après-guerre, dans la mesure où après la guerre, sont restés les Juifs en Pologne qui voulaient précisément y demeurer. Alors pour répondre à votre titre, à votre question, pourquoi j'ai accolé le communisme ? Parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce que j'évoque dans ce livre, à travers les articles que j'ai eu la chance de réunir grâce aux éditions Michel Oudiard, en y rajoutant certains nouveaux textes, c'est que ça se passe sous le communisme. L'oubli de la Shoah, l'oubli de l'extermination, l'oubli du monde juif, ça se passe, comme vous l'avez rappelé, par cette phase d'expansion assimilationniste qui caractérise le communisme. Donc l'oubli et en même temps la préservation des traces, parce que ce sont deux phénomènes qui vont ensemble, appartiennent au monde communiste. Donc voilà pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis le communisme. L'autre raison, c'est que le communisme détermine beaucoup la perception que nous avons de la Pologne pays témoin, de ce qui s'y est passé, et donc ceci explique aussi, il y a une troisième raison, c'est que du point de vue polonais, parce qu'il y a plusieurs acteurs dans cette situation, du point de vue polonais, eh bien, les Juifs sont perçus comme des communistes. Le judéo-communisme, le mythe du judéo-communisme, c'est quelque chose qui a été forgé avant la guerre par l'antisémitisme en Pologne et qui s'est perpétué pendant la guerre et aussi après la guerre. Donc, forcément, en Pologne, pays très catholique, lorsqu'on dit le communisme est quelque chose qui est extérieur à la Pologne, étranger à la Pologne, cet étranger c'est qui ? Bien, ce sont les Juifs qui ont introduit le communisme en Pologne. Et il est vrai qu'il y avait beaucoup de dirigeants d'origine juive à la tête du Parti communiste polonais en 46, 47, 48 et durant toute la période stalinienne. La question, et ça la relève davantage de la problématique de l'identité juive, c'est que ces communistes juifs n'étaient plus tellement juifs.
Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, comme là, on l'entend bien dans ce que vous dites, c'est que vous travaillez sur les stéréotypes. Comment ils se sont construits, comment ils ont été forgés et comment ils ont évolué. Donc, effectivement, ce stéréotype du juif communiste, ces stéréotypes du polonais antisémite, et donc tous ces stéréotypes qui empêchent la nuance. C'est-à-dire que si ces stéréotypes ne sont pas forcément totalement faux, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils se sont construits, comment ils évoluent et ce qu'ils recoupent exactement.
Oui, moi, j'aime beaucoup la formule d'Adam Michnik, qui est de dire Il n'y a pas d'antisémitisme polonais, il y a des antisémites en Pologne, il y a des partis antisémites. Je préfère bien davantage ça que des grandes idées essentialistes où on va procéder par de grandes abstractions qui ne correspondent pas à la réalité. Il faut parler de l'antisémitisme en Pologne, il faut parler des 6000 justes polonais, il faut parler de la réalité de l'occupation en Pologne, il faut parler du travail de mémoire en Pologne qui s'y accomplit. Ce sont plusieurs aspects qui montrent des aspects de multiples facettes d'une réalité compliquée. Voilà.
Alors si on parle de réalité, il faut tout de même rappeler les chiffres qui expliquent finalement cette réputation de la Pologne devenue terre de l'Holocauste. Donc 90% de la communauté juive de Pologne a péri dans la Shoah. Seuls entre 180 ou 240 000 juifs ont survécu. Et aujourd'hui, après les vagues d'immigration, on ne compte plus, alors on pense qu'entre 8 000 et 12 000 juifs en Pologne. Donc aux yeux de l'Europe et de l'Occident, l'histoire de la Pologne, c'est l'histoire de l'Holocauste.
Aux yeux, non. Non, là, vous abusez.
C'est pour vous provoquer.
Oui, je vous remercie. Aux yeux de l'Occident, la Pologne, elle est complexe. La Pologne, c'est d'abord un pays martyr. Hein, c'est une capitale rasée. C'est une capitale rasée par les Allemands en août 44, août-septembre 44. C'est un pays meurtri et détruit par la guerre. C'est un pays aussi qui est le premier pays anticommuniste. Je veux dire, la dictature du système soviétique a été combattue principalement par les Polonais. Ce sont des choses qu'il faut rappeler. Je pense que vu d'Occident, cette chose-là, ces aspects-là comptent. C'est un très bon élève de l'Union européenne, d'une certaine façon, la Pologne. Donc il faut relativiser les choses. Et en même temps, c'est vrai, c'est un pays qui est marqué par un très fort antisémitisme, par une très forte présence juive avant la guerre. 3,5 millions de juifs, c'était la patrie du monde juif, c'était le berceau du judaïsme. Varsovie était la deuxième ville juive avant 1939. Donc c'est quand même quelque chose de très très important. Et c'est vrai que l'extermination est passée par là. C'est vrai que les vagues d'antisémitisme en Pologne après la guerre sont aussi passés par là, provoquant des départs massifs de juifs de Pologne en 56-68. La Pologne est quasiment le seul pays à avoir connu, un, des pogroms après la guerre, et deux, une campagne officiellement antisémite provoquant le départ de juifs de Pologne en 68. Il est vrai que l'Union soviétique y avait aussi beaucoup contribué, mais enfin en Pologne, ça a été très 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 important. Donc voilà, il faut... Alors aujourd'hui, vous me dites, il reste entre 8 et 12 000, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien, c'est vrai que depuis la chute du régime communiste et l'avènement de la nouvelle démocratie en Pologne, de la démocratie polonaise, il y a une sorte de renouveau du monde juif en Pologne. C'est incontestable. Il y a une synagogue à Varsovie, il y a un mouvement libéral qui s'est introduit aussi, il y a un festival de la culture juive. Il y a tout le temps de nouveaux juifs en Pologne. Et ce n'est pas un hasard dans un pays qui a été tellement meurtri par la guerre, tellement annihilé, où il y a eu tellement d'enfants qu'on a tenté de cacher, dont on a nié l'identité. Le meilleur exemple, c'est Geremek. Geremek, dont ce n'est pas le vrai nom, Geremek caché par des paysans polonais, Geremek a retrouvé un peu de son identité juive après, une fois qu'il est sorti de sa cachette. Donc, et il y a un renouveau de ces jeunes générations à qui on a caché qu'ils étaient juifs, ou bien Agata Tuschinska, l'écrivain, qui très tardivement a appris que sa mère était juive. Donc ça, ça provoque des chocs d'abord, parce que du coup, ces juifs qui s'ignoraient apprennent qu'ils étaient juifs, donc ils relient ça à une histoire traumatique de leurs parents, dont ils perçoivent certains éléments, lesquels parents souvent sur leur lit de mort le leur disent, et ça les raccroche à une histoire traumatique. Donc ce n'est pas un hasard qu'il y ait tellement de nouveaux juifs. Hein. Donc combien il y en a, j'en sais rien, il y en a 20 000, 25 000, enfin ça prend des formes organisées, désorganisées, inorganisées. Tout ça doit être mis en proportion avec le fait que c'est quand même extrêmement petit par rapport à ce qui existait il y a encore 40 ans, 50 ans, 60 ans et bien avant la guerre.
Alors votre livre commence, Jean-Charles Chourek, par aborder les politiques mémorielles en Pologne, qui en disent long sur l'histoire de l'Europe communiste, et vous racontez la façon dont le lieu même d'Auschwitz est devenu le lieu où a été mis en place le concept de la martyrologie polonaise dès 1947, où en effet on parle des morts polonais des camps et non finalement de la spécificité juive de la Shoah.
Oui, c'est propre à l'époque. Ce n'est pas propre au musée d'Auschwitz, ce n'est pas propre à la Pologne, c'est propre à l'antifascisme généralisé qui se développe en Europe après la guerre, un antifascisme qui sert d'édification au socialisme. On retrouve la même chose en France avec l'alliance gaullo-communiste qui finalement ignore les déportés raciaux. Mais c'est beaucoup plus présent là-bas, surtout sur un lieu comme le musée d'Auschwitz, qui est un musée physiquement très impressionnant, qui est le cimetière du monde juif, le premier cimetière juif du monde, mais en même temps le premier cimetière polonais du monde. Il y a là-bas 75 000 Polonais, plus ou moins, qui sont morts. 150 000 Polonais non-juifs sont passés par le camp d'Auschwitz, et les rescapés non-juifs, les rescapés polonais qui ont érigé la Pologne populaire se sont rendus compte tout de suite que ce musée-là pouvait à la fois préserver la mémoire de l'horreur nazie et en même temps servir d'instrument de propagande à l'édification du socialisme ou de la démocratie populaire. Et c'est ainsi que, effectivement, en 1947, quand naît le musée d'Auschwitz, on ne mentionne pas les juifs parce qu'on les oublie, parce qu'ils n'intéressent personne. Et ceux qui sont intéressants, c'est d'abord les Polonais, deuxièmement les Polonais résistants, troisièmement les Polonais communistes. Et pendant 20 ans, 25 ans, jusqu'à pratiquement même 89, on va avoir un musée d'Auschwitz qui va servir, qui va taire le fait que c'était un musée, un camp où ont péri les juifs européens.
Et alors vous montrez, et ça c'est intéressant, vous montrez que finalement cette omission ne part pas systématiquement d'un mauvais sentiment. Vous le montrez bien dans le compte-rendu d'une table ronde que vous avez eue avec certains anciens rescapés qui étaient aussi en charge de certaines responsabilités dans le camp d'Auschwitz comme musée, comme après-guerre. Donc qui avait un rôle consultatif. Et vous montrez que certains pouvaient croire sincèrement à cette notion universaliste qui allait à l'encontre de la catégorisation de la race mise en place par les nazis.
Oui, c'est une discussion avec le baron Goldstein et Paul Alter, qui étaient les responsables du comité international d'Auschwitz. C'était le comité qui regroupait les associations nationales avant la chute du mur, donc encore du temps du régime communiste. Maintenant, c'est un conseil international qui préside aux destinées du musée. Et à l'époque, puisque c'est une discussion qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années et que je relate dans ce livre parce que je la considère comme importante, ces responsables-là, qui sont des responsables juifs et communistes en même temps, se rendent compte que, d'une certaine façon, qu'ils ont été les acteurs de cette occultation. Et en même temps, qu'ils se posent des questions. Et c'est un petit peu troublant parce qu'on les voit se poser des questions, avoir des doutes. Et on a le sentiment qu'ils ont été un petit peu possédés par leur propre idéologie. Donc c'est un moment un petit peu magique de l'histoire que j'ai tenté de saisir dans cette discussion.
Alors justement, est-ce que vous pouvez peut-être, Jean-Charles Chourek, nous expliquer un peu comment a évolué cette prise de conscience et cette manière de considérer cette historiographie de la Shoah dans le monde communiste polonais en particulier?
Vous savez, il a été ébranlé par toutes les mises en question venues d'Occident. Pour prendre la Pologne, puisqu'on est sur la Pologne, dans les années 80, l'idéologie officielle est ébranlée par plusieurs événements importants. D'abord par le Carmel d'Auschwitz, où l'église de Pologne est autorisée à rentrer par le régime sur le site même du musée, en occupant un bâtiment qui allait devenir le Carmel.
Donc pour y installer des
pour y installer des religieuses, des carmélites. Et quand des juifs de Belgique, de jeunes juifs de Belgique viennent et voient cela, ils crient au scandale. C'est maintenant un peu ancien, ils crient au scandale. Et c'est une affaire qui va durer 10 ans et qui va beaucoup ébranler la conscience polonaise, parce que les Polonais ne comprennent pas ce qui leur arrive. Je veux dire, que la croix vue de Pologne ne puisse pas être présente sur ce cimetière est quelque chose, d'un point de vue catholique et d'un point de vue catholique polonais, parfaitement incompréhensible. En plus, il faut bien dire que les organisations juives avaient déserté le musée d'Auschwitz, et ceci pour des raisons générationnelles, pour les mêmes raisons qu'on vient d'évoquer. Elles n'ont commencé à s'y intéresser qu'avec la deuxième génération, quand la mémoire de la Shoah redevient vivante, y compris pour dans le monde juif. Et donc ils débarquent là-bas et il y a une violence terrible entre la conscience juive d'un côté et le monde catholique polonais de l'autre qui ne comprend pas. Alors ça, c'est le premier ébranlement. Le second ébranlement, c'est le film Shoah de Lanzmann, qui suscite une discussion publique en Pologne, puisque au début, ils ont voulu un petit peu manipuler le film, et puis après, ils se sont rendus compte qu'il y a une dimension tragique dans ce film qui s'adresse aussi à eux, témoins polonais. Et ils se rendent bien compte que la Pologne ne peut pas s'en sortir uniquement par des pirouettes et qu'il faut bien s'adresser au fait que les paysans polonais ont assisté à tout cela et qu'est-ce qu'il faut en penser. Donc il y a eu des dizaines d'articles dans la presse officielle et dans la presse clandestine de l'époque. Donc là, c'est ce qui est relaté dans ce livre. Et puis il y a eu aussi un intellectuel polonais remarquable qui s'appelait Blonsky, qui a paraphrasé un des poèmes de Czesław Miłosz disant « Le pauvre polonais regarde le ghetto, qu'est-ce que c'est que c'était, qu'étaient ces polonais qui regardaient le ghetto ?» dont lui-même faisait partie, il était jeune adolescent, il croisait de jeunes juifs et il disait « Mais enfin, lui, il va, je ne peux pas lui parler, il ne peut pas me parler, et nous le savons tous les deux. » Et c'est cette tragédie-là qui est relatée dans ce papier, dans cet article qui a suscité de grandes attaques contre lui. Comment ? Parce qu'il était le premier à poser la question de la co-responsabilité polonaise dans le génocide.
Et d'ailleurs, on a la sensation, au fur et à mesure qu'on lit tous vos articles, de quelque chose d'irréconciliable dans les relations judéo-polonaises. Quelque chose qui se noue dans le fait que la communauté juive perçoit les Polonais, au mieux comme des témoins passifs, et au pire, finalement, comme des bourreaux actifs, qui désormais habitent le pays, qui est devenu, ce que vous disiez tout à l'heure, le cimetière juif et le lieu de mémoire de la Shoah. Et les Polonais, eux-mêmes victimes de la guerre, des nazis, puis des communistes, qui perçoivent les Juifs comme les principaux alliés du régime communiste. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui, finalement, ne pourra jamais se résoudre. Est-ce que vous percevez cette chose irréconciliable, Jean-Charles Chourek ?
Non, là, je crois que vous allez trop loin. Je pense que vous allez trop loin. D'abord, je ne sais pas jusqu'à quel point il peut y avoir des réconciliations, mais il y a quand même des réconciliations. Il y a quand même des tentatives de réconciliation. Il y a des gestes, il y a des actes. Lorsqu'il y a eu cette fameuse prise de connaissance du massacre de Jedwabne en 2001, eh bien, les plus hautes autorités de l'État, le président de la République polonaise de l'époque, l'Église de son côté, ont été demander pardon. Donc c'est un acte, c'est un geste. Et on sait aujourd'hui par les enquêtes et les sondages que l'opinion publique polonaise a basculé dans sa perception et dans l'intelligibilité de la présence juive et du génocide. Donc on ne peut pas dire que les tentatives de réconciliation n'aient pas eu lieu. Elles ont lieu. Le monde juif est très populaire en Pologne aujourd'hui, contrairement à tout le passé. Donc c'est presque, je dirais grotesque, c'est presque excessif. Ça va dans l'autre sens. C'est trop, c'est too much. Mais bon, voilà. La réalité de ce qui s'est passé pendant la guerre est encore à découvrir. Et nos collègues historiens, polonais notamment, mais pas seulement eux, des Américains, des Israéliens, travaillent beaucoup à comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre, parce que effectivement, le communisme a beaucoup camouflé tout cela, donnant bonne conscience aux Polonais, au monde polonais. Et ce monde polonais est aujourd'hui ébranlé depuis une vingtaine d'années. Et je pense, avec les travaux des historiens, il le sera de plus en plus. Donc de ce point de vue-là, vous avez raison. La réconciliation, la vraie, celle qui fait qu'on se réconcilie, elle est encore à venir parce que tout n'est pas encore découvert. Il y a encore beaucoup de choses qui vont être découvertes. Récemment, il y a le bouquin de Jan Gross qui est sorti en France. D'autres ouvrages vont sortir en Pologne qui vont montrer notamment les crimes des paysans polonais à l'encontre des Juifs.
Oui, d'ailleurs, un autre aspect de votre réflexion qui va dans ce sens, c'est de montrer que finalement, dès le lendemain de la guerre, les historiens avaient fait leur travail, que la réalité du génocide et sa spécificité juive avaient été établies en Pologne. Mais vous montrez bien que ce qui passe, c'est le discours officiel, c'est ce qu'il y a dans les manuels scolaires, et ça ne passe pas du tout à la même vitesse que la recherche historique. Et que c'est là, en fait, qu'il faut vraiment mettre un effort, c'est dans les manuels scolaires et dans le discours officiel.
Ben, les manuels scolaires, aujourd'hui, font beaucoup d'efforts. À l'époque, ils ne le faisaient pas. Il y avait tout un calibrage de la présence juive dans les manuels scolaires qui correspondait à l'organisation de l'oubli. Et en ce qui concerne les manuels scolaires d'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il faut dire que les Polonais font un travail, effectivement, là, pour le coup, d'information. Et grâce à cette information, c'est quand même un processus de reconnaissance, je ne dirais pas de réconciliation, mais un processus de reconnaissance qui est à l'œuvre.
Et ce qui permet donc peut-être pour finir, Jean-Charles Chourek, qu'émerge effectivement de nouveau l'histoire du sauvetage des Juifs en Pologne, qu'elle émerge de nouveau, mais avec toute sa complexité, puisque vous évoquez par exemple Zegota, donc ce groupe qui a sauvé des Juifs et notamment des enfants en Pologne pendant la guerre, donc dirigé par Zofia Kossak, un mouvement dont on peut aujourd'hui évoquer l'antisémitisme de départ.
Peut-être pas le mouvement, mais les dirigeants. Zofia Kossak était une antisémite affirmée. C'est d'ailleurs un cas fascinant d'antisémitisme de quelqu'un, d'une personne qui a une haute conscience catholique, une haute conscience patriotique polonaise, qui n'aime pas les Juifs, qui estime que la population juive, le rêve des politiques, des organisations politiques juives ne correspond pas au rêve politique des Polonais, mais qui, dans le contexte de l'extermination des Juifs et des dégâts causés sur le moral des populations polonaises, de la population paysanne, dit « mais enfin, il faut sauver ces populations juives. Sinon, d'abord, c'est une réaction morale, c'est pas un calcul, mais elle le dit aussi. C'est-à-dire que d'un côté, elle dit c'est moral, et d'un autre côté, elle dit mais pour la dignité même de la nation polonaise, pour le moral de la nation polonaise, si on n'aide pas son prochain, eh bien, on se tue soi-même. Donc c'était ça, cette réaction, et donc elle a fondé le seul mouvement en Europe d'aide aux Juifs, c'est vrai.
Alors merci beaucoup Jean-Charles Chourek. Je rappelle donc que votre livre est publié aux éditions Michel Oudiard. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.